Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous en ce mercredi 21 février 2018. Il est de retour, Jean-Sébastien Laliberté. Comment allez-vous?
Je vais fort bien, Hélène. Oui. Et vous donc?
Ah oui, ça va bien. Mais moi, j'ai pas eu une fin de semaine de 4 jours, là. Alors, je suis en forme, mais j'imagine que vous l'êtes encore plus que moi.
Ah oui. Oui, ce fut un fort bon long week-end.
Oui, ça passe vite quand même, hein, j'imagine.
On s'habitue. C'est ce qui est le plus pénible. Quand on revient d'un congé, c'est que
vrai.
Le retour à la réalité fait que, sont loin les prochaines vacances. Mais bon, on aime son travail, ben alors
oui.
On est content d'en revenir.
Oui, c'est ça. Alors, vous avez l'air bien de bonne humeur et en forme. On vous écoute dans la chronique éphémérite.
21 février, journée internationale des guides touristiques et également journée internationale de la langue maternelle. À ce sujet, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, on pourrait penser que c'est un droit acquis, mais ce n'est pas tous sur cette belle planète qui ont le droit d'employer leur langue maternelle où ils le veulent, quand ils le veulent. Donc, ça fait du bien de s'en rappeler que tout de même, ici, nous pouvons parler librement notre langue maternelle. Événement marquant pour un 21 février 1431, début du procès en hérésie de Jeanne d'Arc par l'évêque de Beauvais. 1613, Michel Romanov, devient tsar de Russie, premier d'une dynastie qui durera jusqu'à la révolution bolchevique en octobre 1917, donc un peu plus de 300 ans. 1795, liberté des cultes est instaurée en France. 1804, première circulation d'une locomotive à vapeur. 21 février, en 1830, à Paris, la première de la pièce Hermani de Victor Hugo déclenche une bataille entre classique et romantique.
Ah oui!
1848...
Je ris, mais c'est pas drôle, mais quand même, c'est rare que ça arrive de nos jours, une bataille...
Entre classique et romantique, c'est très rare, je vous l'accorde. 1848, publication du manifeste du Parti communiste par Karl Marx et Friedrich Engels. 1874, le major Walter Winfield invente un jeu de plein air qu'il nomme lawn tennis, plus tard devenu le tennis sur gazon. 1902, Harvey Cushing devient le premier chirurgien américain à opérer une tumeur du cerveau. 1905, naissance des provinces canadiennes de l'Alberta et de la Saskatchewan. 21 février 1910, parution du premier numéro de La Tribune de Sherbrooke. 1916, étalée sur 40 km, l'artillerie armande pilonne Verdun. La bataille de 10 mois fera quelques 420 000 morts. 150 000 autres corps non identifiés seront retrouvés après la guerre. 1921, le Québec devient la première province à contrôler la vente d'alcool en créant la Commission des liqueurs. 21 février 1934, refus par l'Assemblée législative du Québec de reconnaître le suffrage féminin. Donc, 6 ans avant d'accorder le droit de vote aux femmes, l'Assemblée législative du Québec leur avait refusé ce droit, qui, faut-il le rappeler, était la dernière province au Canada à l'accorder. 1947, l'inventeur Edwin Land présente sa caméra de type Polaroid, qui a été fort populaire jusqu'à tout récemment. La compagnie s'est mise sous la protection de la loi de la faillite il y a quelques années.
Ça me fascinait tellement quand j'étais jeune.
Oui, que la photo sorte instantanément. 1951, à Paris, Félix Leclerc remporte un grand prix du disque pour « Moi, mes souliers ». 1953, découverte de la structure de l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, le code génétique. 1958, création du symbole de la paix, ce cercle avec des petites lignes qu'on connaît tous. 1965, assassinat de Malcolm X, le militant Malcolm X assassiné à New York. 1994, une loi du Parlement britannique ramène de 21 à 18 ans l'âge du consentement homosexuel. 2004, à Paris, le film Les Invasions barbares de Denis Arcand reçoit 3 prix, dont celui du meilleur film au gala des Césars. Et 21 février 2016, attentat meurtrier de l'État islamique en Syrie. On s'en rappelle encore tristement aujourd'hui. Pour clore cette chronique, 3 anniversaires de naissance et de décès. Naissance en 1933 de la pianiste et chanteuse américaine Nina Simone. Décès en 1960 du peintre québécois Paul-Émile Bordua. Et 1941, décès de Frédéric Banting, un des hommes derrière la découverte de l'insuline.
Des grands noms qui nous ont quittés en cette date. Merci Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse à Houston, dans l'univers de David Saint-Jacques. Dans 9 mois, l'astronaute québécois rejoindra la Station spatiale internationale. La presse vous transporte dans les coulisses du centre spatial Lyndon B. Johnson à Houston pour suivre l'entraînement intense auquel il est soumis. Affaire, c'est exclusif à la presse, juste pour rire, 2 acheteurs dans la dernière ligne droite. Quasi-noyade au centre Père Marquette, un adolescent d'exception lutte toujours pour sa vie. Pyeongchang 2018, Philippe Quentin chronique une réaction de champion. On parle ici du couple qui a remporté l'or, Monsieur Moyer et Madame Virtue. Deux entreprises des États-Unis et de l'Alberta sont dans la dernière ligne droite du processus pour acheter le groupe Juste pour rire, a appris la presse. Il s'agit du groupe américain ICM Partners, une agence d'artistes, ainsi que de l'homme d'affaires albertain Daryl Katz, déjà propriétaire de l'équipe de hockey des Oilers d'Edmonton. Québecor reste aussi présent dans le dossier puisque l'entreprise québécoise détient un droit de premier refus à certaines conditions. Le processus de vente du groupe Juste pour rire, qui a commencé en octobre dernier après les allégations d'agression et de harcèlement sexuel contre son fondateur et propriétaire Gilbert Rozon, achève désormais. Les parties aimeraient conclure une transaction d'ici mars, selon nos informations. Au départ, 7 groupes d'acheteurs avaient manifesté leur intérêt pour le groupe Juste pour rire. Ils ne sont plus que 2 en piste, ICM Partners et le groupe de Daryl Katz. Dans les 2 cas, les acheteurs proposent des formules passablement complexes pour acheter les activités francophones et anglophones du groupe Juste pour rire. Il n'y a pas d'entente actuellement sur le prix de vente, mais il semble qu'avec cette vente forcée, Gilbert Rozon n'aura droit qu'à environ la moitié de la somme correspondant à l'évaluation qu'il avait faite lui-même de son entreprise au début du processus. Le montant de l'offre présentée par le groupe Juste pour rire est confidentiel. Cela fera bientôt 1 semaine que l'inexpliqué s'est produit à la piscine du centre Père Marquette à Montréal. 6 jours que la famille de l'adolescent retrouvé au fond de la piscine est à son chevet, aux soins intensifs de l'hôpital Sainte-Justine. Pendant ce temps, le quotidien reste pénible entre les murs de l'école secondaire du même nom. Pour ses amis et camarades de classe, mais aussi pour ses enseignants. Une des enseignantes de B, c'est la seule lettre, donc seule la première lettre de son prénom a été utilisée pour désigner l'adolescent. Donc, une des enseignantes de B a exprimé cette tristesse dans un texte publié sur Facebook. « Ces jeunes sont supposés venir passer un bref moment dans ta classe, écrit-elle, et puis ils sont supposés partir vivre leur vie, vivre l'amour, la liberté et tout le reste. Et surtout, surtout, ces jeunes ne sont pas supposés voir leurs rêves se noyer dans le fond d'une piscine. » Un jeudi matin de février, à l'âge de 14 ans seulement. À travers les lignes de ce texte habilement écrit, on lit la peine d'une enseignante secouée par la réalité fragile et impardonnable du vrai monde. Jeudi, en matinée, B est tombé dans la piscine du quartier Rosemont. On ignore combien de temps il est resté sous l'eau avant que les élèves du groupe suivant le sien le remarquent. Il est dans le coma depuis, sa famille à son chevet. Il est toujours aux soins intensifs. Nous prions pour lui, a sobrement confirmé son oncle à la presse. Un autre proche apprenait hier soir que l'hôpital allait mettre les meilleurs neurochirurgiens afin de le ramener en forme à la maison, donnant un nouveau souffle d'espoir à la famille. Dans sa classe, B est sans contredit le garçon le plus populaire, un super joueur de basketball, beau jeune homme, drôle, premier de classe en plus. Il a un charisme fou qui promet le plus bel avenir. Et une inspection des lieux aura lieu aujourd'hui. Un inspecteur de la régie du bâtiment se rendra sur place aujourd'hui pour vérifier la conformité des lieux où se trouve la piscine du centre Père Marquette. La régie ne fait pas d'enquête. Nous vérifions si la réglementation est respectée, précise Sylvain Lamotte, porte-parole de la régie. Vraiment triste nouvelle, c'est Jean-Sébastien qui me l'a communiqué. La presse vient d'annoncer le décès de ce jeune garçon, adolescent donc, qui est mort noyé dans cette piscine. La nouvelle vient de tomber. Alcool au volant, Ottawa fait une croix sur le 0,05 pour le moment. Le gouvernement Trudeau abandonne, du moins pour le moment, l'idée d'abaisser de 0,08 à 0,05 le taux maximal d'alcoolémie permis en vertu du Code criminel comme il avait envisagé de le faire l'an dernier. La ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, qui avait tenté de convaincre ses homologues provinciaux de la justesse d'une telle mesure au printemps dernier, a fait savoir qu'Ottawa mise maintenant sur de nouvelles mesures contenues dans le projet de loi C-46 qui chemine actuellement au Sénat afin de contrer le fléau que représente la conduite avec les facultés affaiblies. Le projet de loi C-46, qui a été déposé en même temps que le projet de loi C-45 sur la légalisation de la marijuana, donnera de nouveaux pouvoirs aux policiers, en particulier celui d'exiger un échantillon d'haleine de tout conducteur intercepté pour avoir commis une infraction au code de la route ou dans le cadre d'une vérification de routine. Ainsi, les policiers n'auront plus besoin d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner que l'automobiliste est en état d'ébriété pour demander qu'il se soumette à un test d'alcoolémie. Le Québec demeure la seule province à ne prévoir aucune sanction pour les automobilistes qui dépassent la limite de 0,05. En 2010, le gouvernement Charest avait déposé un projet de loi prévoyant, entre autres, de suspendre pendant 24 heures le permis de conduire d'un automobiliste dont l'alcoolémie se situe entre 0,05 et 0,08. Il avait finalement fait marche arrière devant la grogne des restaurateurs et les hauts cris des partis de l'opposition. Rappelons que la limite actuelle de 0,08 a été inscrite au Code criminel il y a presque 50 ans, en 1969, alors que le gouvernement libéral de Pierre-Éliott Trudeau, père de l'actuel premier ministre, était au pouvoir. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, lancera dans 4 semaines 16 projets ratios au Québec afin de déterminer le ratio patient-infirmière optimal appliqué dans les hôpitaux et les CHSLD pour réduire la charge de travail des professionnels en soins. M. Barrette a rencontré hier la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, Nancy Bédard, une semaine après leur dernière rencontre où il avait admis que peu avait été fait depuis 2 ans pour réduire la charge de travail. Ce n'est pas simple faire un projet ratio. Ça a une certaine complexité qui exige de part et d'autre de suivre une certaine séquence, a prévenu le ministre de la Santé, qui a établi une feuille de route avec la leader syndicale pour le prochain mois. Ainsi, M. Barrette et Mme Bédard se rencontreront de nouveau dans une semaine afin de choisir les lieux où les 16 projets ratio seront réalisés. Dans tous les cas, chaque région administrative du Québec, à l'exception du Grand Nord, aura son projet réalisé dans un hôpital ou un CHSLD. L'ONG britannique Oxfam, dans la tourmente depuis la révélation d'abus commis en Haïti par certains de ses employés après le séisme de 2010, a déclaré hier qu'elle enquêtait sur 26 nouveaux cas d'inconduite sexuelle. 16 de ces cas concernent les programmes internationaux d'Oxfam, confédération d'une vingtaine d'organisations humanitaires qui emploient 10 000 personnes dans le monde et des dizaines de milliers de bénévoles. Ces cas se rapportent à des événements récents comme à d'autres, historiquement plus anciens, a précisé devant les membres d'une commission parlementaire britannique le directeur général d'Oxfam, Mark Goldring. « Nous voulons vraiment que les gens se manifestent », a-t-il dit, indiquant que des enquêtes pourraient de nouveau être menées sur certaines affaires anciennes.
Plus récent extrait de Claude Bégin qui s'intitule « Voiture volante » de son prochain album à paraître plus tard ce printemps.
En une du Devoir, l'usage des armes intermédiaires comporte des risques méconnus. L'arsenal se répand sans qu'on mesure les blessures qu'il entraîne. Rémunération des médecins cherche un antidote à la honte. L'argent qui nous est offert devrait servir à améliorer les soins, disent des spécialistes. Une saison dans la vie du Saint-Laurent, jamais à ce jour une mission scientifique n'avait étudié ce milieu naturel durant l'hiver. Syrie, le régime poursuit son carnage dans la Ghouta orientale. Agression sexuelle, former les aspirants juges est-il la solution? Pyeongchang 2018, on y allait pour un podium. Disqualifier l'équipe canadienne de relais ne remporte pas une médaille olympique pour la première fois depuis 1992. L'usage par les policiers des bâtons télescopiques et des irritants chimiques ainsi que des pistolets électriques Taser augmente, mais le brouillard persiste quant aux blessures causées par ces armes dites intermédiaires, révèle une récente étude de l'École nationale de police du Québec. 17 ans après le sommet des Amériques et 6 ans après le printemps érable, les données sur la gravité des blessures causées par les armes à létalité réduite au Québec sont pratiquement inexistantes, confirme ce nouveau rapport. Ces technologies-là sont réputées pour causer moins de blessures, mais en même temps, les données qu'on a, ce sont celles fournies par les fabricants, explique Annie Gendron, chercheuse au Centre de recherche et de développement stratégique de l'École nationale de police du Québec. L'étude révèle que l'utilisation de ces armes ne se limite plus à des interventions lors d'événements planifiés. Elle rappelle que c'est à la suite de l'affaire Alain Magloire en 2014 que l'utilisation des armes intermédiaires a fait son entrée chez les patrouilleurs. À quelques semaines du G7 où les policiers prévoient d'utiliser les armes intermédiaires, le ministère de la Sécurité publique n'a pas indiqué s'il tiendra compte de l'étude. Le ministère accueille favorablement le rapport et les pistes de réflexion proposées s'est limitée à indiquer Pierre-Luc Lévesque de la Direction des communications du ministère. Ce qu'on propose, c'est d'avoir des données associées à chaque tir d'armes à létalité réduite et de préciser s'il n'y a eu aucune blessure, une blessure légère ou une blessure grave. Cela permettrait d'établir des ratios et également de savoir dans quel contexte leur utilisation est plus dangereuse ou moins dangereuse. Indique la chercheuse, les liaisons des données médicales et policières permettraient ainsi d'ajuster l'utilisation de ces armes si nécessaire. Des médecins spécialistes gênés par la hausse de rémunération que Québec leur a consentie cherchent un moyen d'exprimer leur malaise ou de renoncer à leur chèque, mais s'estiment coincés par la situation hautement politique dans laquelle ils se sont retrouvés. Ils sont quelques-uns jusqu'ici. Ils ont pris la parole dans des lettres ouvertes ou se sont confiés aux médias. Au Devoir, ils ont été une dizaine à déplorer le manque de fermeté du gouvernement dans les négociations avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'approche du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ou une hausse de rémunération dont ils n'ont pas besoin. Quand j'ai vu mon salaire augmenter de près de 100 % en 2 ou 3 ans, pendant que les salariés devaient se battre bec et ongles pour des hausses de 2 ou 3 % j'ai senti le malaise. Le rattrapage, je veux bien, mais tout le monde convient que le rattrapage est fait, a déclaré un médecin spécialiste. L'entente avec les spécialistes survient alors qu'on s'inquiète de l'épuisement des infirmières. Élection québécoise de tête découverte à visage découvert, un obstacle de moins à la présence de candidats des minorités culturelles. Les personnes portant un voile, un turban ou tout autre couvre-chef pourront désormais se présenter aux élections. La proposition du directeur général des élections qui voulait modifier le règlement pour autoriser les photos montrant un visage découvert a été approuvée mardi à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale. L'ancien règlement sur la déclaration de candidature exigeait une photo tête découverte, ce qui était jugé discriminatoire par certains partis, dont le Parti vert et Québec solidaire. Désormais, on acceptera une photo présentant une vue de face complète du candidat à partir des épaules, selon ce qui a été entériné. La burqa et le niqab demeurent toujours interdits. La révocation du juge Girouard recommandée, le magistrat aurait acheté de la cocaïne quelques jours avant sa nomination en septembre 2010. Il aura fallu deux enquêtes menées par deux comités, mais le juge Michel Girouard n'y échappera pas. Le Conseil canadien de la magistrature recommande la révocation du magistrat de la Cour supérieure du Québec. Dans un rapport soumis à la ministre fédérale de la Justice, le Conseil conclut que le juge a manqué à l'honneur et à la dignité. Le dossier du Faubourg Contrecœur ne se limite pas à un cumul d'irrégularités, il s'agit plutôt d'une suite d'événements graves démontrant qu'il y a eu complot pour favoriser Construction F Catania pour l'obtention du contrat du projet immobilier. C'est ce qu'a fait valoir mardi la procureure de la Couronne, Maître Nicole Martineau, lors de ses plaidoiries au procès du Faubourg Contrecœur. Avec ce procès qui tire à sa fin, la Couronne a tenté de démontrer que les 6 co-accusés dans cette affaire, parmi lesquels Franck Zampino, ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et l'entrepreneur Paolo Catania avaient manœuvré pour avantager l'entreprise Construction F Catania dans la vente d'un terrain par la Société d'habitation et de développement de Montréal. Selon la Couronne, le terrain aurait été vendu au rabais, le prix étant passé de 19,1 millions de dollars à 4,4 millions en raison des coûts de décontamination. Vous écoutez le quotidien des quotidiens en ce mercredi tout doux. Hein, on prévoit des 10-12 degrés, mais ça va se refroidir parce que l'hiver n'est pas terminé. Mais quand même, ce redoux est agréable. J'ai vu plein de monde se promener sans gants, sans mitaines, mais il ne faut pas exagérer quand même. Il faut garder ses bottes et son manteau d'hiver. Restez avec nous la suite de l'émission après la pause et la chanson.
À part de ça, j'ai pas envie d'être être sérieux. J'ai pas envie de me mentir. J'ai pas envie de jouer le jeu. Perdre la face et repartir. J'aime ma vie quand je le peux. J'ai pas trop l'impression de vieillir. J'suis pas plus brillant, j'suis pas plus niaiseux. J'sais bien qu'un jour je vais mourir. Je suis un homme de mauvaise foi. Faut-il que tu crois ce que je te dis? J'ai peur comme tous les autres aussi. De perdre l'ombre de ma croix.
Portrait d'un ovni, Fred Fortin sur Canal M.
À la une du Journal de Montréal de ce 21 février 2018, grosse déception. Les patineuses canadiennes n'ont pas caché leur déception en apprenant leur disqualification lors de la finale du relais féminin de patinage de vitesse courte piste. Grogne contre le programme du ministère de l'Éducation, les profs pas prêts pour le cours d'éducation sexuelle. À l'hôpital du Haut-Richelieu, le préposé se filmait en train d'agresser ses victimes. Inquiétude chez les enseignants, les canevas pédagogiques sont incomplets et les professeurs n'ont pas été formés, a appris le journal. En colère, mal à l'aise et toujours pas formés, les professeurs ne se sentent pas prêts pour le retour de l'éducation à la sexualité à la grandeur de la province dans 6 mois, au point où des écoles pourraient manquer de volontaires pour l'enseigner. Parler d'agression sexuelle à des enfants de première année. Point de suspension. Si je devais faire ça, demain matin, je passerais des nuits blanches, illustre Nathalie Morel de la Fédération autonome de l'enseignement qui représente plus de 34 000 professeurs. Après avoir été abolie il y a plus de 15 ans, l'éducation à la sexualité sera de retour dans toutes les écoles du Québec et à tous les niveaux du préscolaire, primaire et secondaire dès l'automne prochain. Les enseignants et sexologues interrogés par le journal se réjouissent du retour de ce programme, mais les profs sont en colère devant la précipitation du ministère de l'Éducation, indique Mme Morel. Depuis 2 ans, environ 140 écoles participent à un projet pilote. Malgré cela, le matériel disponible est incomplet, a constaté le journal, après avoir obtenu les canevas pédagogiques qui ont été créés pour le programme. Alors, les thèmes abordés, préscolaire et primaire, le corps humain, l'identité de genre, l'hygiène, la grossesse et la naissance, les agressions sexuelles, les rôles et stéréotypes sexuels, la puberté, l'éveil amoureux et l'amitié. Au secondaire, les relations amoureuses et la séduction, l'orientation sexuelle, l'identité et les stéréotypes sexuels, les agressions sexuelles, l'agir sexuel, les infections transmises sexuellement et la contraception, ainsi que la violence conjugale, rien sur l'avortement et les transgenres. Dans ces canevas, le ministère invite la personne qui enseignera ce sujet à faire une introspection et à faire le point sur son niveau d'aisance. D'autant plus que des élèves risquent de dévoiler qu'ils ont été agressés pendant ou après l'atelier. Alors ici, on parle du sujet, bien sûr, des agressions sexuelles. Et ce n'est pas facile de recevoir ça, dit la sexologue Geneviève Labelle. La personne qui recueille cette confidence doit adopter une attitude aidante, sans quoi elle risque de nuire au processus de guérison de la victime. Dans un monde idéal, il devrait y avoir un sexologue dans chaque école.
Thank you.
Des rivières encore sous surveillance. La journée d'aujourd'hui sera critique avant le retour du froid. Plusieurs municipalités sont sur un pied d'alerte parce que des rivières menacent de sortir dans leur lit, de leur lit plutôt, aujourd'hui en raison du redoux et de la pluie qui tombe sur le sud du Québec. La situation est particulièrement préoccupante en Estrie et en Montérégie, où des embâcles pourraient se créer. Les rivières Châteauguay, Coaticook, des Hurons, des Mille-Îles et quatre autres cours d'eau font l'objet d'une surveillance intensive de la part des municipalités. Le redoux qui touche le sud de la province culminera aujourd'hui avec des températures qui atteindront jusqu'à 9 degrés Celsius à Montréal et de la pluie, a indiqué Environnement Canada. Propos un peu plus léger, la reine Élisabeth II et la papesse de la mode Anne Wintour assistant côte à côte à un défilé de mode, c'est ce qu'on voit sur une photo publiée dans le Journal de Montréal. C'est l'image insolite d'hier à la Fashion Week de Londres où la souveraine s'est rendue pour la toute première fois. Assise au premier rang, la reine a assisté à la présentation du jeune styliste britannique Richard Quinn, à qui elle a remis le premier prix Élisabeth II de la mode, une récompense qui sera désormais décernée tous les ans à un nouveau talent du secteur. « C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui à la Fashion Week de Londres », a-t-elle déclaré avant de remettre le prix. L'accusé aurait filmé ses agressions sur des patientes. Trahi par une clé USB oubliée dans un manteau skidou, un préposé de l'hôpital du Haut-Richelieu qui se serait filmé et pris en photo tandis qu'il agressait sexuellement des patientes vulnérables, a été arrêté hier par la Sûreté du Québec. André Touga, qui aurait sévi depuis au moins 5 ans, a comparu au tribunal hier sous près d'une dizaine de chefs d'accusation. Outre les inculpations pour agression sexuelle, il est accusé de voyeurisme et d'avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile. Il sera de retour en cours aujourd'hui. Ce sont des photos mettant en scène des enfants engagés dans des activités sexuelles qui ont contribué à la perte de l'homme qui aura 54 ans dans quelques jours. En effet, à l'automne dernier, Touga aurait vendu un casque, des bottes et un manteau skidou sur un site Internet. Quelques semaines plus tard, l'acheteur a trouvé une clé USB dans le vêtement. Curieux, il y a jeté un coup d'œil puis a vite fermé le tout et prévenu les policiers dès qu'il s'est rendu compte qu'elle contenait de la pornographie juvénile. Employé de nuit au département de psychiatrie de l'hôpital du Haut-Richelieu depuis 2011, André Touga a été dénoncé par une patiente en juin 2017 et a été congédié immédiatement. Ses crimes auraient été commis entre 2012 et 2017. Une nouvelle clinique pourrait ne jamais voir le jour sur le plateau. Le promoteur veut 125 places de stationnement, mais l'arrondissement n'en permet que 15. La clinique médicale Angus, sur la rue Sherbrooke-Est à Montréal, planifie depuis l'an passé de créer un nouveau pavillon spécialisé dans les soins aux enfants et aux femmes enceintes. Le service d'urbanisme de l'arrondissement répond simplement au promoteur que le projet ne cadre pas avec la vision du secteur qui souhaite limiter l'utilisation de l'automobile. On soigne des enfants malades qui sont hyper contagieux et tu me dis de les embarquer dans un autobus, de les laisser pleurer et de rendre tout le monde malade? C'est aberrant, a réagi Isabelle Girard, présidente de l'Association des cliniques médicales du Québec, qui regrette le manque de flexibilité de l'arrondissement. Le promoteur fait remarquer qu'un projet semblable a été beaucoup plus facile à faire autoriser l'automne dernier dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Le Soleil abandonne son édition papier du dimanche. Le groupe Capital Média a reçu une aide de 10 millions de Québec il y a 2 mois. La décision a été annoncée par voie de communiqué hier après-midi. L'entreprise de presse appartenant à l'ex-ministre libéral Martin Cauchon a indiqué que Le Soleil sera remplacé à compter du 18 mars par une édition numérique commune aux 6 quotidiens de groupe Capital Média, à l'intérieur de laquelle sera publiée une part de contenu local.
Martin Léon et la pièce Perte de Nord.
La chronique de Sonia Bolduc dans la Tribune, Passation de savoir au potager. Je ne sais pas si vous avez déjà fait pousser du céleri dans votre potager. En fait, partons de la base, de la terre, mettons. Je ne sais même pas si vous cultivez votre potager. Par contre, ce que je constatais déjà par observation et que Mélanie Grégoire m'a confirmé cette semaine, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au potager, mais à n'avoir aucune idée par où commencer. Puis, dans les semaines et les mois qui suivent, de la voie à suivre afin de manger les fruits et légumes qui vont ou qui devraient pousser dans votre nouveau terrain de jeu. C'est beaucoup pour ça que Mélanie Grégoire lance cette semaine les 4 saisons de votre potager, un guide qui vous trace les allées de la toujours très attendue période des semis du printemps jusqu'aux dernières récoltes automnales. Un guide qui vous tient par la main, semaine après semaine, en vous indiquant quoi faire et comment, en bonifiant de quelques conseils et trucs de grand-mère. La grand-mère, c'est celle de Mélanie Grégoire, Rita, qui lui a légué non seulement son amour du potager, mais aussi un savoir qui, au fil du temps, fait toute la différence entre sauté de légumes maison et une livraison de pizza hors dress. Je voyais tout plein de mes amis autour qui se faisaient un jardin, plantaient leurs semis au printemps ou au début de l'été. Puis, ils retournaient juste à la fin de l'été pour récolter des carottes qui, forcément, n'avaient peut-être pas poussé comme ils l'espéraient, raconte la propriétaire des serres Saint-Élie. La vérité, a-t-elle constaté, c'est qu'il y a tout un savoir qui s'est perdu en une ou deux générations, mais aussi un contact avec notre alimentation et ses sources. En d'autres termes, comme le disait ma grand-mère à moi, un contact avec notre manger. Quand les gens mangent une carotte qu'ils ont fait pousser dans leur jardin, ils pognent de quoi? Ça goûte quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté, lance encore celle qui partageait déjà ses connaissances par le biais de chronique et son travail en entreprise, mais qui a décidé d'ajouter un outil de référence de quelques 200 pages qu'on se plaira à consulter tout en regardant les oignons pousser. Exclusif, c'est dans le soleil, Gilbert Leduc. En cette période olympique, il est de mise de dire que les records sont faits pour être battus. La citation s'applique également au Festival d'été de Québec. Au cours de son édition 2017, sa 50e, le FEQ a recensé exactement 378 790 participants. Effacé immédiatement du livre des records la performance de 2008, l'année du 400e anniversaire de la ville de Québec, alors que l'événement estival avait attiré 373 000 participants. Le nombre d'entrées sur les sites est passé de 1,7 à 1,8 million. Pour le directeur général par intérim du FEQ, Claude Doré, l'effervescence entourant le cinquantenaire du FEQ a fait en sorte d'attirer encore plus de festivaliers. C'est aussi le résultat d'un engouement particulier des touristes à l'égard de la capitale qui se manifeste depuis déjà quelques années. Ajoutez que nous continuons d'offrir un produit affichant un rapport qualité-prix imbattable. 100 $ pour un événement qui se déroule sur 11 jours. Essayez de battre ça. Dans le quotidien, un pitbull s'attaque à deux chiens. Le 17 février, vers 21h, un pitbull a attaqué deux chiens de petite taille dans le quartier Saint-Laurent à Jonquière. Michael Godin promenait ses compagnons canins, comme à l'habitude, quand un chien est apparu de nulle part au coin des rues Saint-Clément et Saint-Dominique. Mes chiens étaient en laisse, alors qu'un chien noir, court sur pattes et ressemblant à un pitbull que je n'avais jamais vu dans ce coin-là, était en liberté. Il s'était lancé sur Canel, il l'a prise à la gorge, il s'est mis à la secouer violemment, se remémore Michael. Lorsque la petite chienne de moins de 10 livres, âgée de 15 ans, s'est retrouvée au sol, inerte, le chien s'en est pris à Zazou, un croisé schnauzer d'une quinzaine de livres. J'ai réussi à enlever Zazou de la gueule du pitbull pour le prendre dans mes bras et le protéger, mais je n'arrivais pas à prendre Canel. Le gars n'avait aucun contrôle sur son chien. Moi, je tentais de me défendre en donnant des coups de botte capés au chien, mais tout le monde dehors me criait que je n'étais pas correcte de faire ça. Je suis partie à la course chez moi pour mettre Zazou en sécurité, poursuit Michael. Quand il est arrivé à son appartement avec un seul chien, sa conjointe Samantha Gosselin a senti la panique dans sa voix. Canel est morte, elle s'est fait attaquer et j'ai été obligée de la laisser là-bas, tente d'expliquer Michael qui est sous le choc. Voulant ressortir pour retourner chercher Canel, le couple, dans la trentaine, aperçoit le pitbull sur le seuil de leur porte. « J'ai pris ma carabine à plomb et j'ai tiré 3 coups pour le faire fuir », stipule Michael. Puis ils sont partis pour chercher Canel, mais elle n'était plus là. Ils ont fouillé le quartier toute la nuit. C'est le lendemain matin qu'un homme les a appelés pour leur dire que Canel était dans son garage et qu'elle était très mal en point. « Heureusement qu'elle avait une médaille », soupire Samantha. Canel était sans doute inconsciente quand Michael la croyait morte. À son réveil, elle était confuse et s'est enfuie par instinct de survie. Dimanche matin, la petite chienne, affaiblie et ayant une sévère blessure au cou, a été reconduite chez le vétérinaire. Avec du recul, quand je repense au comportement du chien qui a agressé Zazou et Canel, j'ai l'impression qu'il jouait, réfléchit Michael qui a vu juste. Lors de cet incident, les policiers ont été appelés sur les lieux. Le propriétaire du pitbull a reçu une contravention et les policiers ont exigé que le chien soit envoyé à la SPCA, car le règlement stipule que le pitbull est interdit sur les territoires de Saguenay. Le chien est toujours gardé à la SPCA Saguenay en attendant la décision du propriétaire qui aura le droit de reprendre son chien, le faire euthanasier ou le laisser à la SPCA. Si ce chien est laissé à la SPCA, il sera remis en adoption dans un refuge qui dessert un secteur acceptant les chiens de type pitbull. Le refuge aura alors le mandat de trouver une famille apte à encadrer cet animal. Au moment d'écrire ces lignes, Canel, la petite chienne de 15 ans, était toujours hospitalisée chez le vétérinaire. Les frais s'élèveront à plus de 1 000 $. Quant à Zazou, il a une blessure sur le corps que sa famille surveille de près. Paul Vermot ou Vermotte Desroches, une usine de cannabis à Trois-Rivières, point d'interrogation, il semble de plus en plus probable que Trois-Rivières ait sous peu son usine de cannabis. À l'instar de Louisville, la ville est présentement en pourparlers avec des promoteurs. On ne peut plus on ne peut plus sérieux, qui souhaite implanter d'ici la prochaine année une usine de cannabis dans le parc industriel des Carrefours. L'entreprise Demeter Organica, Organie trait d'union K, la lettre, a l'œil depuis près de 2 ans sur un terrain du parc industriel des Carrefours situé à l'intersection nord-ouest du boulevard LP Normand et de la rue Charles Maillot. Un terrain pour lequel l'entreprise bénéficie d'une option d'achat accordée par le conseil municipal de Trois-Rivières en 2016. D'ailleurs, mardi soir, le conseil a prolongé cette option jusqu'au 15 février 2019. Questionné à ce sujet, le directeur de l'aménagement et du développement urbain à la ville de Trois-Rivières, Robert Dussault, indique que la ville a récemment rencontré les promoteurs qui semblent de plus en plus sérieux dans leur démarche. La construction d'un bâtiment est d'ailleurs au programme d'ici la prochaine année, ajoute-t-il. Dans le droit, Mathieu Bélanger, le ministre Fortin derrière les draveurs et les cageux. Il est de la responsabilité collective des citoyens de l'Outaouais, mais aussi de tout le Québec, de garder bien vivant le souvenir du courage qui animait les draveurs et des cageux, selon le ministre des Transports du Québec et député de Pontiac, André Fortin. Ce dernier appuie sans réserve la proposition mise de l'avant par l'organisme ABC Stratégie de désigner officiellement ces hommes comme des héros nationaux. Ce sont des gens qui partaient loin de leur maison dans de longues épopées et qui trop souvent ne revenaient jamais, raconte le ministre. Des centaines de draveurs et de cageux, raftmen, sont morts. C'est une bonne idée d'honorer ces gens-là qui ont donné leur vie pour bâtir notre économie. Le droit révélait en janvier dernier les démarches entreprises par plusieurs intervenants du milieu culturel de l'Outaouais pour faire reconnaître les draveurs et les cageux comme des héros nationaux par l'Assemblée nationale. Initiée par ABC Stratégie, cette demande de reconnaissance a depuis été reprise par la Fédération Histoire Québec, qui a donné un appui unanime au projet lors de son dernier conseil d'administration. Il y a des démarches politiques qui sont enclenchées, confirme le président de la Fédération, Richard Bégin. Les politiciens sont très réceptifs. La mécanique à utiliser pour mener à la reconnaissance nationale des draveurs et des cageux n'est cependant pas encore déterminée. J'ai eu une première discussion avec la ministre de la Culture et nous sommes en train d'organiser une rencontre avec M. Bégin pour justement discuter de ces éléments, précise le ministre Fortin. André Fortin estime qu'une désignation des héros nationaux pour les draveurs et les cageux est positive et souhaitable, mais pas suffisante. Il faut s'assurer d'aller plus loin que le simple titre honorifique, dit-il. Il faut que les gens comprennent ce que ces hommes-là ont fait pour le Québec. La reconnaissance, c'est une chose, mais il faut l'ancrer. Il faut que la population comprenne bien cette partie-là de notre histoire. Le ministre Fortin salue à cet effet les efforts faits par ABC Stratégie et l'artiste Isabelle Regout, qui vient de terminer une tournée des régions du Québec pour parler de la drave et des trains de bois. Il souhaite aussi que des initiatives comme celles mises de l'avant par la Commission des portages de l'Outaouais pour enseigner aux jeunes l'histoire des draveurs et des cageux soient déployées à plus grande échelle. L'organisme ABC Stratégie n'en a pas terminé avec les draveurs et les cageux. Alors que la volonté de faire reconnaître ces hommes à titre de héros nationaux arrive à l'étape politique, le groupe dirigé par Alexandre Pampalon vient d'entamer un autre exercice fondamental pour la mémoire de ces travailleurs atypiques qui ont marqué la région. Distinguer le cageux du draveur dans le grand dictionnaire terminologique. Nous sommes depuis peu en lien avec l'Office de la langue française pour établir la définition du mot « cageux ». Les dictionnaires reconnaissent évidemment les mots « draveur » et « bûcheron », mais il n'y a rien de spécifique pour les cageux, des « raftmen ». On y travaille présentement sur la définition à y donner. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. C'est l'émission Revue de presse exclusive à Canal M, le quotidien des quotidiens qui se poursuit. Encore une demi-heure pour vous avec les actualités culturelles et aussi le segment Sujet libre.